Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Smart Training Podcast, l'épisode numéro 12. Et aujourd'hui, un nouvel épisode en solo qui devrait durer un peu moins d'une demi-heure, donc un format plutôt court sur lequel on va échanger autour d'un sujet qui, moi, m'intéresse énormément, à savoir la gestion de la charge d'entraînement, le load monitoring, vous l'appelez comme vous voulez, et ce que ça peut mettre en jeu, les différents outils qu'on peut utiliser. Ce sera pas exhaustif comme d'habitude, parce que j'ai pas le recul pour vous dire que c'est exhaustif, et je pense qu'il y a énormément d'outils que je ne connais pas aujourd'hui, et qui, pour certains, soit sont dépassés, on les utilise plus, soit sont pas encore démocratisés. Mais en tout cas, l'idée, c'est de revenir sur certains outils, peut-être échanger un petit peu sur la pertinence de chacun, et en tout cas, montrer que dans chaque contexte, des outils peuvent être intéressants, alors que d'autres peuvent être un peu plus futile, et aussi voir que dans certains contextes on peut vite utiliser certains outils qui ont des limites mais qui sont les seuls qui seront adaptés à notre contexte. Ça dépend des moyens humains, des moyens financiers, du temps alloué, enfin voilà, pas mal de petites choses. On va évidemment toujours se référer au sport de performance, qu'il soit collectif ou individuel. Moi, les exemples que je vais surtout donner, ce sera dans le sport collectif, parce que c'est la chose dans laquelle j'ai le plus de recul, ou en tout cas qui moi me correspond le plus, mais c'est clairement adapté pour le sport individuel aussi, puisqu'on sait très bien que la gestion de la charge, c'est quelque chose dans les sports collectifs qui est à prendre avec un point de vue collectif, mais surtout avec un point de vue individuel, puisqu'on n'a pas tous la même tolérance à la charge en fonction de chaque individu, de son background, de ses blessures, de son âge, de plein de choses en fait. Donc clairement, je pense que c'est un sujet qui peut être très intéressant si on prend le temps d'échanger là-dessus. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont le temps et qui prennent le temps d'écouter ce podcast, et je vous en remercie, de me faire un retour derrière sur Instagram, si vous avez des données supplémentaires, un avis différent. Ça peut être aussi l'occasion de vous manifester pour réaliser un second podcast sur le sujet ensemble, et de pouvoir échanger là-dessus. Moi, ce serait avec plaisir, c'est comme ça qu'on progresse tous, et si je fais ce podcast, c'est aussi pour, et surtout pour ça, pour que derrière vous puissiez me faire des retours et me dire ce que vous en pensez, autant sur les formats interview, où on est plus sur du partage d'expérience, autant sur le format en solo où je partage, où j'exprime un petit peu mon point de vue, ou en tout cas que je donne des billes sur ce que je peux voir aujourd'hui sur certains sujets. C'est clairement jamais exhaustif, et le but, c'est vraiment que vous puissiez me donner des billes également. Donc n'hésitez pas, et on enchaîne direct sur le podcast du coup, et sur ce thème qui me passionne. Alors, on va juste revenir du coup un petit peu sur l'idée de gestion de la charge. Pareil, je vais essayer de, moi, en tout cas, donner ma version de la chose. Évidemment, c'est pas une définition qu'on va retrouver sur Internet, etc. Le but, c'est pas ça. Pour moi, la gestion de la charge, c'est clairement analyser les contraintes qu'on va faire peser sur l'athlète de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, et essayer d'utiliser certains outils pour donner à l'athlète les meilleurs outils possibles pour être efficace et performant durant les matchs ou durant les phases de compétition. Donc on peut avoir une gestion de la charge qui va être ondulatoire en sport collectif, où on aura des matchs tous les week-ends, et des gestions de la charge un peu différentes en sport individuel quand on a une compétition à un instant T. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en avant, puisqu'aujourd'hui, c'est peut-être, alors encore ça n'engage que moi, mais un des enjeux prioritaires d'optimisation de la performance de demain, notamment en sport collectif où il y a de plus en plus de matchs. Donc finalement, le rôle du préparateur physique, le rôle du staff, c'est parfois plus d'essayer de faire en sorte que les athlètes soient dans les meilleures conditions possibles pour performer, plutôt que de dire, ok, on va essayer de développer le gars, que ce soit au niveau technico-tactique spécifique ou au niveau physique. Alors évidemment, il y a des moments pour tout, et on peut essayer de faire les deux, mais essayer de gérer cette charge d'entraînement, c'est vraiment pour moi un enjeu en relation avec la récupération, parce que finalement, le premier pilier, enfin un des premiers piliers de récupération et pour faire en sorte que les athlètes soient dans la meilleure disposition, c'est évidemment une gestion de la charge optimale en relation avec un bon sommeil, une bonne nutrition et une bonne utilisation de tous les outils adjacents. Mais clairement, la gestion de la charge, je pense que c'est quelque chose qui est encore sous-côté et qui n'est pas bien compris. Il y a certains sports qui l'ont vachement développé, certains sports individuels notamment. Et en sport collectif, on peut penser évidemment au rugby qui a passé un énorme cap sur ce sujet-là, avec des préparateurs physiques, des directeurs de la perf qui sont intégrés à 100% au staff, notamment sur les aspects spécifiques qui vont être ceux qui gèrent un peu le timing des séances spécifiques, avec une vraie considération d'être cohérent et strict, on va dire, en tout cas réfléchi sur ces aspects-là. Je pense par exemple au témoignage de Thibaut Giroud sur ces éléments-là, directeur de la perf du 15 de France, mais également de Pierre Sago. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter parler de son process de perf sur le club de Grenoble en Pro D2 aujourd'hui. Alors peut-être que lorsque vous écouterez ce podcast, ils seront en top 14, j'espère pour eux. Mais en tout cas, voilà, il y a différents témoignages et qui aujourd'hui montrent que le rugby est quand même vachement en avance sur cet aspect-là. Je pense aussi au travail de Pierre Ostruy. Il y a vraiment énormément de préparateurs physiques, directeurs de la perf en rugby qui ont pu témoigner là-dessus, qui montrent quand même qu'on est dans un autre level. On pourra en reparler aussi si l'occasion se présente dans ce podcast, mais on a déjà pas mal de choses à dire. Pour gérer la charge d'entraînement, aujourd'hui, on a énormément d'outils qui se développent. Je fais un petit travail là-dessus avant pour que ce soit un peu plus clair, et je les ai regroupés par thème. On peut parler des outils anthropométriques, des outils orientés autour du screening du mouvement fonctionnel, au niveau des aspects du système nerveux et du système métabolique, des tests intra-séance, du wellness, des aspects nutritionnels, en tout cas physio-nutrition, ou physio-hormonal plutôt, et des aspects nouvelles technologies. J'ai mis ça de manière assez globale parce que c'est des choses sur lesquelles enfin, qui sont des pistes que j'ai pu lire sur des ouvrages, etc., mais qui ont rien de fonctionnel aujourd'hui. Ils ne sont pas utilisés aujourd'hui, mais c'est peut-être des choses dans le futur. L'idée, pour moi, dans l'idée de gestion de l'argent d'entraînement, on entend justement la sélection de certains outils qu'on va proposer aux athlètes pour pouvoir faire en sorte d'avoir, entre guillemets, un état de forme quotidien, hebdomadaire des athlètes, pour, avec ça, se dire, ok, là on est bien, ils sont tous en forme, là peut-être que le collectif, ou en tout cas cet individu-là est moins en forme, comment on peut adapter la charge. Donc c'est un travail d'analyse a posteriori, mais c'est également, du coup, vous l'aurez compris, de l'analyse en amont, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on peut mettre en place en amont pour éviter que les joueurs soient, ou les joueuses, ou les athlètes, peu importe, soit dans un état de surmenage, où on peut parler, il y a différents termes, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que c'est pareil, il y a différents termes qui décrivent certains différents états, mais en tout cas, dans un état dans lequel l'athlète aura pas 100% de ses moyens pour performer lors des compétitions, et je pense notamment sport collectif chaque week-end, donc ça impacte du coup la planification derrière. Aujourd'hui, en termes de gestion de la charge au niveau anthropométrique, on peut parler de la prise de poids, c'est-à-dire faire passer les athlètes sur une balance et récolter de manière longitudinale le poids des athlètes. C'est pas forcément un outil qui est hyper efficace pour avoir des données à court terme, mais par contre, ça peut donner une tendance, une trend sur un athlète qui va perdre du poids de manière régulière, sur un athlète qui va prendre du poids. Alors, c'est en mettre en relation en plus sur cet aspect-là avec les aspects athlétiques, développement des qualités athlétiques d'un athlète. Peut-être que certains athlètes ont besoin de prendre de la masse musculaire, peut-être que d'autres perdent de la masse adipeuse, peut-être que d'autres, voilà, il y a différents objectifs, mais qui peuvent être en relation avec du coup ce load monitoring. On le verra, il y a quand même des liens de toute façon entre tous les secteurs de perf qui sont indéniables et qui sont indispensables à faire. Mais au niveau de la prise de poids, moi, pour la petite anecdote, j'ai déjà été confronté avec des joueurs qui avait une perte de poids significative semaine après semaine, et donc bah, c'était un élément à prendre en considération, et le fait de prendre son poids, ça permet de voir, ok, au bout d'une semaine, il a perdu un peu de poids, c'est peut-être pas alarmant, deux semaines, ok, tu peux questionner le joueur sur est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau perso, est-ce que peut-être que c'est une maladie qui s'est déclenchée, peut-être que ceci, cela, et ça permet de rapidement envoyer vers le staff médical, et en relation aussi, du coup, avec le joueur, faire en sorte de trouver des solutions, parce que ce soit au niveau santé ou au niveau performance, du coup le joueur peut être impacté négativement et faire preuve de plus de fatigue, etc. Donc on reviendra quand on fera le bilan. Il y a un élément qui est l'échange, qui est forcément je pense c'est la première step, c'est le plus important, mais ça nous permet d'avoir des outils. Donc la prise de poids peut être intéressante, je pense aussi sur les athlètes féminines, une prise de poids, alors attention, ça peut engendrer des relations conflictuelles, parce qu'on sait, alors c'est également présent chez les gars, mais je pense que chez un public féminin, il y a une vraie importance sur l'échange que tu vas faire autour de cette prise de poids hebdomadaire quotidienne, c'est-à-dire que il faut savoir que le poids des mots peut être, ouais, c'est le cas de le dire, le poids des mots peut être très impactant pour une personne, à savoir, mais du coup c'est valable aussi pour un public masculin, mais en tout cas sur le public féminin, moi j'ai déjà été confronté à ça, à savoir, ok, la prise de poids, ça peut, si l'athlète féminine en fait quelque chose de négatif, Ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire. Il faut aussi avoir échangé avec l'athlète sur sa relation à la nutrition et à son poids de corps, sa relation à son image. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être délétère dans la relation que vous allez avoir avec l'athlète, mais également dans simplement le bien-être de l'athlète. Donc, une prise de poids chez les filles, moi je trouve que c'est aussi intéressant, notamment par rapport au cycle menstruel. C'est vrai que dans une communication idéale, il faudrait que les filles puissent renseigner sur le fait, enfin sur leur rythme menstruel et à savoir quand est-ce qu'elles ont leur période ou leurs règles pour pouvoir potentiellement adapter la charge, parce qu'on sait que ça peut amener des états de fatigue, ça peut amener des douleurs. Il y avait aussi des études qui témoignaient du risque de blessures accrues durant la période menstruelle. Et on sait aussi que la prise de poids, que les règles menstruelles, enfin que les règles peuvent amener une prise de poids. Et une perte de poids, etc. Donc ça peut être aussi un indicateur à savoir, ok, j'ai peut-être pas forcément besoin de poser la question directement, mais de par la prise de poids, je sais qu'à ce moment-là, peut-être que c'est le cycle menstruel qui a fait son apparition et je peux aller échanger avec l'athlète autour de ça. Et ça peut être aussi un indicateur, comme pour les garçons, de fatigue, de potentiel. Pathologie, enfin voilà, il y a quelque chose aussi à faire là-dessus, mais je pense que du coup, il faut essayer d'aplanir la discussion et absolument pas avoir un discours nocebo, à savoir t'as pris du poids ou t'as perdu du poids. Non, le but c'est pas ça. Ou alors, s'il y a ce genre de discours, c'est parce que au préalable, on a eu, il y a un projet qui est mis en place autour de prise de masse musculaire, autour de perte de masse adipeuse, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est une prise de poids longitudinale pour le load monitoring, il faut faire attention, je pense, à comment on l'utilise, mais pareil, ça peut être un outil, je pense, quand on n'a pas mieux, qui peut être intéressant. Le deuxième outil que je trouve intéressant en ce sens, ça va être la prise du body fat. Donc, il y a différents outils, hein. Je pense que enfin, le plus fiable, ça va être un DEXA scan. Maintenant, le DEXA scan, on sait que les rayons X, en tout cas, c'est pas accessible, c'est cher. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Moi, je pense pas que c'est quelque chose qui peut être utilisé de manière hebdomadaire. Peut-être mensuel, mais est-ce que c'est intéressant? Peut-être qu'aller jusque-là, c'est trop. On peut prendre une pince et il y a des calculs qui sont différentes formules qu'on peut utiliser. Il suffit juste de se former rapidement là-dessus pour pouvoir faire en sorte d'avoir du coup des relevés de masse adipeuse qui peuvent être faites. Moi, personnellement, je n'utilise pas. C'est pareil. Dans une logique de gestion de la charge d'entraînement, monitoring, load monitoring, je pense que c'est intéressant. Mais ça prend du temps, c'est du temps, faut être honnête, ça prend un peu de temps. Donc si on le fait, faut peut-être qu'il y ait quelqu'un qui soit alloué à ça, faut peut-être qu'il y ait soit une diète, soit un prépa qui soit formé là-dessus, qui soit alloué à ça, soit même un kiné, pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, faut trouver un système dans lequel on ne perde pas trop de temps. Et pareil, si c'est lié à des objectifs de perte de masse grasse, par exemple, ou de maintien d'un certain niveau de body fat, ça peut être intéressant. Pareil, au niveau anthropométrie et load monitoring, peut-être que c'est quelque chose qui peut être pertinent aussi. Voilà, c'est peut-être pas les meilleurs outils, mais en tout cas, je voulais le mettre en avant, c'est quelque chose qui peut exister. Pareil, attention au rapport qu'on en fait pour pas amener des problématiques au niveau psychologique chez les athlètes, même si on sait aussi que le sport de haut niveau, il y a des exigences physiques relatives qui sont importantes, donc il faut savoir aussi dire les choses quand il y a besoin. Pareil, warning sur les outils qu'on utilise, à savoir que tout ce qui est balance à impédance-métrie, c'est plus ou moins fiable, notamment en relation avec le niveau d'hydratation. Également, si c'est qu'une impédance-métrie sur le bas du corps, on sait aussi que certains athlètes stockent plus ou moins du gras à certains endroits, donc ça peut être biaisé. Maintenant, sur un suivi longitudinal, certains pourront dire que c'est pertinent si on reproduit évidemment les tests dans des conditions similaires, la même journée, avec des habits qui sont à peu près similaires, à savoir, pourquoi pas en sous-vêtements, enfin voilà. En tout cas, il faut faire attention au biais qu'il peut y avoir. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément très pertinent. Le dernier outil que je voulais mettre en avant au niveau anthropométrique, ce serait du coup les niveaux d'hydratation. Ça, je pense que pour le coup, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Pour le coup, ça demande également du temps, ça demande de pouvoir avoir une relation de confiance ou en tout cas, le faire de manière bien expliquée aux athlètes. J'ai vu que le 15 de France de rugby le faisait là pendant sa prépa de Coupe du Monde. Voilà, on a un niveau dit de performance qui permet d'avoir ce type de travail. Je crois que c'était la diète de l'équipe qui le faisait. Mais je pense que c'est un outil qui, voilà, pour le coup, est très intéressant puisqu'on sait très bien que le niveau de rotation a une relation directe avec le niveau de performance qu'un athlète peut avoir et l'état de forme d'un athlète. Donc voilà, je pense qu'on peut le faire de manière un petit peu plus dilué avec simplement sinon des infographies qui permettront à l'athlète de savoir son niveau d'hydratation, mais du coup là on n'est pas sur du load monitoring, mais plus sur l'éducation. Mais voilà, en tout cas c'est un outil que je voulais aussi mettre en avant. Derrière, on a des tests un petit peu plus fonctionnels, screening, mobilité, comme les set and reach, comme des overhead squats qu'on va appeler précurseurs douleurs. C'est des choses que pareil qu'on voit dans le rugby aussi, mais qui doivent exister dans d'autres sports, notamment en relation avec les niveaux de soreness, genre courbatures, les DOMS, et du coup aussi du coup un état de fraîcheur. Par exemple, on va passer des tests de set and reach le matin, donc mobilité de la chaîne postérieure, et faire un suivi pour voir est-ce que le set and reach reste au même score, est-ce qu'il y a des évolutions positives, négatives, voilà. Pareil, ça peut vraiment être remis en cause en termes de fiabilité, mais c'est un outil qui peut être utilisé, et comme le overhead squat, pour avoir un retour, mais c'est aussi surtout l'occasion d'amener un échange avec l'athlète pour savoir son état physique, mais ça du coup, il n'y a pas forcément besoin. Mais moi je trouve que c'est un outil qui est plutôt... Notamment l'overhead qui peut être intéressant quand l'athlète arrive à en faire un devant vous et il pourra vous dire ok là je sens au niveau de ma hanche, je sens des raideurs ou je sens des courbatures, alors que droit sans avoir rien fait, et si vous lui demandez comment ça va, il pourra vous dire ça va, alors qu'en fait à un moment il va se mettre en action où là c'est un peu plus dur, là il y a des douleurs qui se réveillent, là il y a des... Donc je pense que ça peut être un bon outil pour amener à une discussion avec le préparateur physique ou avec la personne qui est responsable de la gestion de la charge d'entraînement derrière et d'état de forme. Donc voilà. Après, au niveau du coup du système nerveux et des aspects métaboliques, là on rentre dans des choses qui sont un peu plus précises et qui sont déjà pour le coup pas mal utilisées. On a tout ce qui va être grip test, donc état du système nerveux avec un test de grip pour voir un petit peu la fatigue centrale. Et tous les tests qu'on va énoncer après, c'est un peu la même chose, que ce soit un drop jump, un CMJ, un RSI 10-5. C'est des tests voilà, où on va pouvoir un peu, évidemment, on va pouvoir monitorer également les performances neuromusculaires, mais c'est un bon moyen pour également avoir du coup un indicateur sur l'état du système nerveux et puis surtout plus globalement sur l'état de fatigue d'un athlète. Si tant est qu'on ait le temps de le faire, qu'on ait le temps de le faire de manière hebdomadaire, dans des conditions similaires, peut-être là pour avoir un peu exploré ça, pour moi, mon contexte d'intervention perso, j'irai plus sur un RSI 10-5, puisque ça te permet d'avoir un CMJ en début, puis après, ça te permet d'avoir quand même un outil qui est assez facile à mettre en place. Je vous laisse aller creuser un petit peu si ça vous intéresse. Pour pouvoir, alors il faut avoir des outils technologiques pour le faire, hein, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Derrière un outil qui a déjà fait ses preuves et qui est utilisé énormément en sport individuel aussi, puisque c'est pareil, on en reviendra, mais ça dépend du contexte, mais en sport individuel, ça va être la HRV, Heart Rate Variability, donc variabilité de fréquence cardiaque. Pareil, je vous laisse aller explorer un petit peu le temps entre deux battements de cœur, etc. Enfin voilà, c'est des qui permettraient d'avoir des indications sur l'état du système de manière globale, et ça, je pense que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Il faut s'y attarder un peu plus, il faut avoir les outils pour. Aujourd'hui, il y a des applications qui permettent d'aller monitorer ce genre de choses, comme HRV for Training sur téléphone, ça coûte 10 €. Pareil, il y a des études de validation scientifique, c'est sûrement beaucoup moins précis que quelqu'un qui a une ceinture ou quelqu'un qui utilise peut-être même la montre. Il y a des protocoles à respecter le matin, par exemple. Donc c'est des choses qui sont à faire, pareil, c'est du longitudinal, c'est-à-dire que j'avais déjà entendu parler, notamment Rémi Rivet qui avait parlé de ça dans un podcast, je vous recommande d'aller l'écouter, Mouvement Podcast ça s'appelle, il en parlait sur le fait que c'est des choses qui souvent amènent à des décisions à court terme. Tu vas te réveiller, ton HRV va être plus ou moins élevé et tu vas en faire une conclusion. Je suis très en forme, je suis pas en forme. Et ça va impacter, et si c'est les entraîneurs, ils vont considérer que si le score n'est pas bon, ok, on adapte son entraînement. Peut-être qu'à très court terme, en fait, bah, c'est pas pertinent. Par contre, sur 1, 2, 3 semaines, si tu vois des scores qui sont de plus en plus négatifs, là, il y a une question à se poser peut-être et aller chercher un peu plus loin des états de fatigue, etc. Par contre, à très court terme, je pense que c'est pas forcément le plus pertinent. Mais par contre, je pense que c'est un outil, si on a les moyens, qui est hyper intéressant à mettre en place. Alors, on peut parler de la fréquence cardiaque, heart rate, il y a des travaux aussi là-dessus, et des outils par rapport à ça qui sont intéressants à utiliser, mais pareil, il faut avoir les outils, il faut avoir le temps et les moyens. On peut parler des data scientists, et analyse de data, etc. Bah, c'est un travail à temps plein quasiment si on veut faire des choses cohérentes là-dessus, pour derrière adapter la charge d'entraînement et de manière individuelle et collective. Derrière, des outils comme la consommation d'oxygène, comme la concentration en lactate sanguin, qui sont des outils qui peuvent être utilisés également. Là, pour le coup, on passe vraiment, je trouve, un step en termes de réflexion, en tout cas de mise en place de projets, de load monitoring, et ça demande pour le coup beaucoup de, beaucoup de moyens. Alors ça peut paraître, quand je dis beaucoup de moyens, c'est pas forcément des moyens matériels, mais ça peut être des moyens humains et des compétences pour analyser ça. On peut pas s'inventer gestion de charge, expert de la gestion de la charge d'entraînement comme ça. Il faut savoir un peu au niveau physio ce qu'il en ressort. Et je pense que c'est des choses du coup qui demandent une vraie réflexion et du coup plus de moyens humains encore une fois. Et la dernière chose qui paraît vraiment intéressant aussi, ça va être la prise de sang pour faire un suivi hormonal, pour aller chercher quelques hormones, notamment le heat shock proteins qui témoignent de la récupération sportive, la créatine kinase, CPK pour les dommages musculaires, les taux d'interleukine, le TNF alpha pour comme marqueur inflammatoire, la mesure de l'hémoglobuline A et qui informe sur l'état du système immunitaire. Enfin voilà, il y a plusieurs hormones sur lesquelles on peut aller faire un petit bilan pour avoir un peu des marqueurs. Je pense en vérité que c'est peut-être le meilleur outil de tous ceux que je viens de présenter, notamment en sport collectif, où ce sera un outil qui est assez finalement facile à mettre en place une fois qu'on a le système, qu'on a les partenariats avec les personnes qui peuvent faire des prises de sang et qui peuvent témoigner des taux hormonaux. C'est vraiment quelque chose peut-être de manière hebdomadaire ou mensuelle. Alors c'est pareil, là on passe un cap. Maintenant, la très haute performance peut se permettre de faire ça. C'est sûr que là, tous les clubs, même pro, peuvent pas se permettre de faire ça. Et il y a un vrai travail à faire avec le staff médical, et, évidemment, etc. Mais c'est des choses qu'on peut peut-être retrouver dans certains clubs. Je sais que par exemple, j'ai vu que l'AS Monaco Foot aller se poser des questions au niveau de la créatine kinase, dans la CPK, pour les dommages musculaires. Donc, voilà, ça se fait déjà. L'AS Monaco, c'est quand même un club qui a une vraie réflexion autour de l'optimisation du projet de performance. Donc voilà, c'est pas accessible à tous, mais bon, en tout cas, je pense que c'est vraiment des indicateurs du présent, mais qui vont se développer un peu partout dans le futur. Ensuite, on passe à tous les tests intra-séance. Donc, par exemple, en tant que préparateur physique, on peut faire passer des tests à nos athlètes pendant la séance, des tests qu'on a standardisés pour pouvoir voir un peu l'état de forme des athlètes de manière quotidienne et hebdomadaire. Je pense notamment à des sprints, je pense notamment à des niveaux de puissance, à l'utilisation d'encodeurs lunaires avec le Velocity-Based Training, ou alors des tests de watt bike sur 100 mètres. Là, c'est des indicateurs que Romain Garin avait mis en avant dans un de ses webinaires, il me le semble, et que j'avais repris. Romain Garin, qui est prépa physique dans le rugby. Je vous recommande d'aller voir son travail, il est très intéressant. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être utilisées. Je pense que ça, du coup, c'est assez facile à mettre en place. Est-ce que c'est très efficace? Est-ce que ça donne des vrais indicateurs? Bah voilà, il y a des limites, hein. On n'est pas sur un suivi hormonal, mais bon. Parce qu'on sait très bien que voilà, un sprint, il suffit que le gars soit un peu moins engagé et forcément les données vont redescendre. Maintenant, est-ce que le fait que le gars soit moins engagé, c'est déjà pas un indicateur qu'il n'est pas en super état de forme? Si, sûrement. Donc en fait, voilà, on peut toujours trouver des limites, on peut toujours trouver des intérêts, pardon. Mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut peut-être aussi pouvoir utiliser, notamment dans les contextes où on n'a pas forcément tous les moyens. Après, c'est pareil sur un sprint, sur du VBT, bah, il faut quand même pouvoir. Parce que c'est pas au chronomètre qu'on va aller monitorer un sprint de 10 mètres, c'est clair. Il faut au moins des cellules ou utiliser MySprint, mais ça demande le traitement de data, etc. Et il y a peut-être des biais aussi. Donc voilà, et pareil pour le VBT, pour la puissance, il faut avoir un encodeur. Donc ça coûte quelques centaines d'euros pour avoir quelque chose de fiable, mais c'est quand même, on est en termes d'application, c'est beaucoup plus simple que la réflexion d'un système autour du suivi hormonal, là, qui demande en plus de moyens financiers, des moyens humains, quoi. Mais bon. Ensuite, on a tout ce qui va être load and wellness. Là, je vais parler, bah voilà, RPE. Utilisation SRPE, indice de Foster, wellness, indice de Hooper, Total Quality Recovery Scale, donc des questionnaires, réfléchir autour de la volumétrie d'entraînement, donc le temps total de séances quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, et puis après on peut aller plus loin avec de la suivi objectif de la charge d'entraînement en séance spécifique, donc DGPS, accéléro, avec des questionnements autour de la distance, autour du nombre de sauts, et puis en salle de musculation, toutes les notions du coup de puissance, de tonnage, voilà, toutes ces choses-là qui sont aussi intéressantes. Pour ce qui est des GPS, on sait, il y a pas mal de travaux aujourd'hui avec des évolutions au niveau des indicateurs utilisés, parce que certains ont des biais, parce que d'autres n'ont pas de biais, parce qu'il y a des intérêts vraiment différents, et puis ça dépend vraiment, je pense, de chaque club et de chaque vision, même si j'ai l'impression qu'au rugby, du coup, il y a quand même un consensus qui se fait, parce qu'au rugby, c'est très utilisé. On a des études notamment de Dutty et de Lenné qui utilisent l'accélération moyenne pour pouvoir gérer la charge d'entraînement et en faire ressortir un indicateur pertinent. Voilà, il y a des choses à l'explorer, c'est pareil, je vous laisse aller regarder, mais en tout cas, il y a des choses à aller voir là-dessus pour pouvoir faire en sorte de gérer la charge d'entraînement, être sûr que les athlètes ont fait ce qu'on leur demande en termes d'intensité. Donc, c'est autant un indicateur de gestion de la charge d'entraînement qu'un indicateur de performance. Donc, c'est intéressant. Ensuite, au niveau nutrition, Il y a des choses qui se développent, notamment autour de la surveillance du glucose, le Glucose Continuous Monitoring, le GSM, pour pouvoir gérer un petit peu les stratégies nutritionnelles et les niveaux de stress. Pareil, quelque chose qui est intéressant à utiliser, je pense, et qui pareil, demande les moyens humains et une compétence, peut-être du coup quelqu'un spécialiste sur ces aspects-là, pour pouvoir en faire derrière un outil efficace de monitoring. Et pour terminer, je vais parler un petit peu du coup des nouvelles technologies. Ça, c'est des choses que je reprends de Pierre Ostruy dans son livre Au bord du terrain, que je vous recommande vraiment. Par exemple, la fréquence du clignement des yeux et le débit de parole, deux indicateurs qui peuvent paraître un peu exotiques, mais qui sembleraient permettre d'avoir des indicateurs au niveau du coup de la fatigue. Quelqu'un qui a une fréquence plus haute de clignement des yeux ou quelqu'un qui a un débit de parole différent semblerait être quelqu'un qui est potentiellement plus fatigué. Faut aller creuser également, mais c'est des choses qui sont faites dans l'aviation et dans l'astronomie, il me semble. Donc c'est des choses qui, souvent, quoi qu'on en dise, nous, ce qu'on fait dans la performance, ça vient souvent du travail militaire, enfin de l'armée, du travail que peuvent faire les armées et également, du coup, l'aviation, tout le travail qui est fait autour de l'astronomie, parce qu'il faut une réflexion très poussée au niveau de tout ça, parce que c'est des missions qui des réflexions de projets qui sont à enjeu. Donc il y a des choses qu'on retire de ce milieu-là pour nous optimiser notre performance. Et pareil, il y a pas mal d'études qui ont été faites, souvent sur des publics militaires, parce que c'est des publics accessibles pour certains chercheurs. Donc voilà, ça vient de là, mais en tout cas, c'est tous ces outils-là, je pense, sont intéressants. Et l'idée derrière, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'utilise dans mon contexte? Et évidemment que quelqu'un qui a des gros moyens, qui peut utiliser des GPS, qui peut utiliser des prises de sang pour le suivi hormonal, lui, allait se poser la question de savoir si on fait une prise de poids quotidienne ou un set and reach, peut-être qu'il va se dire, bon, c'est un peu dépassé, ça ne me donne pas vraiment d'indicateur. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de moyens, forcément, peut-être qu'un set and reach sera intéressant et peut-être que un RPE simple... Et en wellness, ce sera intéressant aussi. En fait, tout est question de contexte. Et l'élément qu'on n'a pas mis en avant, et qui est pour moi le plus important, c'est l'échange avec l'athlète. L'échange direct avec l'athlète, finalement, quand on n'a pas de moyens, c'est l'outil le plus efficace. C'est un outil qui prend un peu de temps aussi, évidemment. Et du coup, on n'a pas de données, surtout les prépas ou même les gens autour de la perf. On aime bien avoir, même les entraîneurs, et voir le bref, on aime bien avoir des données longitudinales pour avoir vraiment un repère et en tout cas un graphique qui nous dit OK, là on est dans le vrai, là il y a un peu plus de fatigue, et forcément quand on est juste dans de l'échange, on n'a pas ces éléments là par contre, je pense que tous les outils qu'on a pu citer, ils doivent être complétés par de l'échange, et si on n'a pas ces outils là l'échange doit être au cœur du process. Il y a pas mal de personnes de prépa qui utilisent que l'échange aujourd'hui et qui ont pas d'outils à côté, même dans le très haut niveau, mais voilà, en tout cas voilà pas mal d'outils. On va pas revenir sur chaque outil, mais je pense par exemple au RPE qui est vraiment le gold standard, sans dire qu'au niveau qualité c'est le top, hein, mais en tout cas c'est la chose qui est le plus utilisée, notamment dans le sport co. Il y a pas mal de personnes qui peuvent remettre en cause ça aujourd'hui, et moi je suis totalement d'accord. Le RPE, pour ceux qui savent pas, faire un tout petit résumé, c'est un outil, concrètement, comment ça se présente, c'est simplement récolter la perception d'effort des athlètes post-entraînement. Je vais faire une séance de 2 heures de volet avec mon équipe et je vais demander à chaque personne, OK, comment tu t'es senti entre 0 et 10? Et il y a une échelle, qu'on peut retrouver sur Internet facilement. Il y a deux types d'échelles. Il y a celle qui est modifiée et celle qui est non modifiée. Après, chacun de trouver celle qui lui correspond, mais en tout cas, qui permet de noter entre 0 et 10 son état de fatigue et à 10, bon voilà, vous avez compris, c'est le plus dur, et à 0, c'est effort inexistant. Donc ça permet d'avoir du coup des données, mais c'est subjectif. Voilà, on n'a pas parlé, mais il y a des outils du coup de gestion de la charge qui sont objectifs, d'autres subjectifs. On peut parler de charge interne, charge externe aussi. Et ces outils-là, du coup, ils vont nous donner des indicateurs qui sont pas forcément toujours pertinents et qui ont des gros biais. Je pense notamment au RPE. Il y a beaucoup de préparateurs physiques qui se battent avec leurs athlètes parce que tout a été intégré à une application, et du coup, les athlètes doivent répondre tous les soirs après l'entraînement concernant le RPE, et en fait il y en a beaucoup qui oublient, ça fait chier, enfin voilà, les athlètes n'ont pas forcément envie. Moi je l'ai utilisé par exemple en post-entraînement directement, en demandant aux athlètes directement, il y avait des biais parce qu'il suffit qu'il y ait deux athlètes qui passent l'une après l'autre ou l'un après l'autre, et en fait la première qui va répondre va impacter le deuxième. Si le premier juge que c'était facile, il va dire un score léger, et peut-être que le deuxième, pour pas paraître faible va dire aussi un score léger. Il suffit que l'entraîneur soit là, fasse une petite réflexion. Par exemple, ah, t'as dit 5, pourtant, t'avais l'air dans le dur, hein. Bah, la personne va peut-être modifier, dire, ah, bah non, mais j'ai 6, du coup, enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de biais, donc faut vraiment standardiser la chose. C'est très chronophage. Derrière, à partir de ça, on peut aller chercher d'autres indicateurs. L'indice de Foster, on peut, bah, SRPE, on peut aller chercher charge aiguë, charge chronique, acute chronique. J'ai plus le nom précis, je vais vous le retrouver. Donc un outil qui permettrait du coup sur plusieurs semaines d'avoir un ratio. Voilà, je l'ai repris, c'est donc des études de Gabbett qui démontrent l'existence d'un sweet spot qui permettrait de réduire les risques de blessures musculaires, mais plus globalement l'état de forme, quoi, avoir des indications au niveau de la gestion de la charge d'entraînement pour éviter d'être dans soit trop de charge, soit pas assez, parce qu'on sait qu'avoir augmenter de manière trop drastique la charge ou diminuer de manière trop drastique la charge, c'est un vrai risque de blessure accrue. Donc à partir du RPE, du temps d'entraînement ou d'autres outils, on peut utiliser d'autres outils, hein. Il y a d'autres outils, ça peut être par rapport au temps de, par exemple, j'ai une connerie, au nombre de sauts dans une séance. À partir de ça, on peut du coup effectuer un ratio acute chronique qui permet du coup d'avoir un sweet spot, enfin en tout cas savoir si on est dans le sweet spot que les recherches ont pu mettre en avant pour éviter certaines blessures, en tout cas éviter une baisse de forme, etc., etc. Donc voilà, il y a des choses à faire à partir d'un simple RPE, si on cherche à aller un peu plus loin, pour pouvoir gérer du coup la charge d'entraînement, voir si on est dans le vrai, voir si on est dans le faux. Mais c'est pareil, c'est des outils qu'on développe, mais c'est pas une vérité en soi. Si ça se trouve, un athlète, on pense que de par l'analyse qu'on fait de son RPE, de son temps d'entraînement, cette semaine-là, il est dans le dur parce qu'il y a trop d'entraînement, enfin la charge est trop haute par rapport à aux dernières semaines, etc. Il n'est pas dans le sweet spot et au final, en fait, pas du tout. Il se sent très bien, il n'est pas blessé. Enfin, il va pas se blesser, il va être performant. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas de vérité en soi, mais ça peut être des indicateurs qui confrontés avec d'autres indicateurs pourront nous donner des outils intéressants. Si on utilise un RPE et que l'athlète dit ah je suis fatigué, tous les entraînements sont un peu plus durs que les semaines passées et que parallèlement à ça on va faire un test de CMJ et que sur le CMJ il est également en baisse et qu'en parallèlement à ça il y a une perte de poids significative depuis 3 semaines. Et enfin voilà, il y a plus d'indicateurs qui font dire que peut-être on est sur une direction qui est pas forcément pardon, qui est pas forcément pertinente, et que là il y a peut-être des questions à se poser. Évidemment, il faut absolument échanger avec la tête en plus, mais c'est vraiment cette idée là de mêler peut-être différents outils pour faire en sorte qu'on ait des indicateurs sur la gestion de la charge d'entraînement de manière un peu globale et qu'on puisse savoir vers où on va. Évidemment, si on devait sélectionner certains outils, peut-être que aller se questionner au niveau du niveau d'hydratation, aller se questionner au niveau du suivi hormonal, aller se poser des questions au niveau du suivi objectif de la charge avec les GPS, c'est peut-être les meilleurs outils qui demandent aussi du temps, qui demandent aussi des compétences, des gens qui ont le recul et qui ont les moyens, le temps, tout ce qu'on veut, financiers notamment aussi, les moyens financiers aussi, on l'a pas assez dit. Peut-être que c'est possible. Maintenant, c'est loin de la réalité de terrain. Et pour m'intéresser beaucoup à ce sujet depuis quelques temps, j'ai échangé aussi du coup avec pas mal de monde. Je me rends compte que la plupart des clubs, il y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça qui est fait. C'est fait dans le très haut niveau. C'est fait dans le rugby où il y a une vraie considération de ces éléments-là. C'est fait dans certains clubs de basket, de hand aussi, dans le volley aussi. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont faites, notamment les basiques, le RPE, etc. Des questionnaires wellness aussi, mais est-ce que on va aussi loin que ce qu'on pourrait? C'est sûr que non, et surtout on utilise des outils qui sont vachement remis en cause. C'est pareil, les travaux de Pierre Rostruit là-dessus sont hyper intéressants, le recul qu'il a parce qu'il a une bonne expérience sur ça. Je vous recommande encore une fois d'aller lire son livre au bord du terrain, et ben il y a des choses à aller se questionner, notamment sur le RPE du coup, comme je disais tout à l'heure, qui possède énormément de biais. Et parallèlement à ça aussi, les wellness, c'est-à-dire, il y a Hooper qui a travaillé là-dessus, mais après on peut faire des wellness modifiés. Chacun fait un peu sa sauce au final, je pense. Faut pas toujours s'appuyer que sur ce que dit la science. Et voilà, mais par exemple demander, ok, c'est quoi ton état de forme ce matin, ton sommeil, voilà, c'est des choses qui sont présentes dans les questionnaires. Mais ce que peut mettre en avant Pierre Rostruit, je le regarde plutôt sans avoir son expérience et son recul, c'est que demander à quelqu'un, comme si vous vous demandez à vous-même le matin, entre 0 et 10, combien tu te sens? En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est dépendant de pas mal de facteurs. Et peut-être que c'est 6 alors qu'en fait c'est plus 7, peut-être que c'est 7 alors qu'en fait c'est plus 8. Voilà, Et sauf que ces chiffres-là derrière vont dicter un peu la manière dont on va agir en tant que staff, en tant qu'entraîneur sur la charge d'entraînement ou sur ce qu'on va demander à l'athlète. Donc, il y a des limites. Peut-être qu'aller sur des questions sans résultat chiffré serait plus pertinente. Peut-être qu'aller simplement se demander directement avec l'athlète, aller lui poser directement des questions concernant son état de forme, mais à partir de d'autres outils, bah, c'est peut-être tout aussi pertinent. Je vais vous retrouver un petit peu ce que Pierre Autrui mettait en avant, et je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, j'ai fait une petite pause, et du coup je reviens. L'idée autour du coup de ce RPE et du travail de Pierre Autrui, c'est de dire que peut-être, ou des wellness, plus précisément des wellness, c'est que par exemple, au lieu d'aller demander du coup le sommeil entre un disque et un juge, bah, peut-être qu'aller se demander sur ok, c'est quoi ton heure de coucher, c'était quoi ton heure de réveil, y a-t-il une raison pour laquelle tu n'es pas à 100% physiquement aujourd'hui? Y a-t-il une présence de douleur anormale au lever? Voilà, pareil au niveau mental. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à aller chercher qui sont pas chiffrées, mais qui vont être dans l'échange concret et dans une réponse un peu plus approfondie. Donc évidemment, ça demande un peu plus d'échange que simplement un chiffre et du coup d'aller approfondir la relation avec l'athlète. Mais je pense que du coup, vous l'aurez compris, c'est peut-être l'élément fondamental qu'on doit développer si on souhaite optimiser la charge d'entraînement de nos athlètes. Voilà, il y a des pistes de réflexion. L'idée de ce podcast était vraiment d'aller mettre en avant différents outils et à partir de ça, partager, échanger pour voir un peu ce que vous pouvez en penser. J'ai retiré ces outils-là, pareil, du travail de Pierre Ostruy, de ce que moi j'ai pu apprendre durant mon cursus universitaire, des bouquins de Lucas Villar aussi, de tout ce qu'on peut voir avec différents témoignages dans les webinaires, dans le travail, dans les podcasts, sur Instagram, il y a aussi pas mal de prépa qui partagent. Donc voilà, chacun a des systèmes différents. Pour moi, il n'y a pas de bon système, il n'y a que des systèmes adaptés à chaque contexte. Par contre, il y a des limites et il faut, je pense, savoir les limites de chacun, parce que de chaque outil, pardon, parce que clairement, chaque outil a des limites. Alors évidemment, certains outils sont bien plus pertinents, comme on a pu le dire, mais ils sont aussi bien plus chers, bien plus. Je pense par exemple aussi à l'utilisation des systèmes LPS, des systèmes de GPS, mais pour salle. En fait, c'est un tel engagement financier que c'est pareil. Ok, on veut bien utiliser ça, c'est super, mais il faut que derrière, tu aies le temps aussi de l'analyser. Il faut derrière qu'on puisse travailler avec et que le staff technique soit ok sur le fait de dire ok, je laisse plus de place à l'analyse des données dans ma gestion. Pour donner un exemple concret, je vous recommande vraiment d'aller regarder ce qui se fait dans le rugby. Aujourd'hui, dans le rugby, le préparateur physique ou le directeur de la perf, il va être sur le terrain avec le staff technique. Sur le terrain, vraiment, concrètement, et il va avoir les retours d'un second préparateur physique dans son oreillette avec les données de chaque athlète. Est-ce que chaque athlète est dans les bons secteurs, a fait la charge d'entraînement qui lui incombe, qui a été préparée au préalable avec l'ensemble du staff, et il va gérer les momentum de séance, à savoir, ok, c'est combien de temps on est sur cette séquence, quelle intensité je veux sur cette séquence, on a une pause, elle dure 1 minute, on revient, on change. Ça switch sur quelle distance sur le terrain on va travailler, comment on gère l'espace. Et en fait, tous ces outils-là, du coup, ça demande une vraie collaboration entre le staff technique et le staff d'optimisation, même si aujourd'hui on peut considérer que le prépa est dans le staff technique, hein, mais voilà, entre les entraîneurs spécifiques et l'entraîneur athlétique, si on doit faire simple, ça demande une vraie collaboration. Et donc, ça demande, entre guillemets, que les égos soient un peu mis de côté pour que chacun puisse trouver sa place. Et aujourd'hui, c'est pas toujours facile. En tout cas, c'est pas le cas dans beaucoup de sports, à part le rugby. Je pense qu'il n'y a aucun autre sport qui arrive à ce stade de développement. Et peut-être que c'est un des outils que les autres sports doivent utiliser pour passer un cap. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous retrouverez un petit peu des choses qui vous intéressent. Si jamais, pareil, vous avez des indicateurs que j'ai pas pu mettre en avant, vous avez des expériences à partager là-dessus, je suis hyper, hyper intéressé. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram notamment, ou sur LinkedIn, peu importe. Mais je serais très intéressé pour avoir votre retour là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est au cœur du futur de notre travail en tant que préparateur physique, ou en tant que directeur de la perf, ou en tant qu'entraîneur même. Je pense qu'un entraîneur qui comprend tous ces éléments-là, c'est un entraîneur qui réussira à beaucoup mieux organiser ses séances, puisque c'est pareil. Quand l'entraîneur principal ou quand le head coach n'a pas compris, n'a pas saisi l'importance de ces, ou le manager général n'a pas compris l'importance de ces éléments, c'est compliqué pour le préparateur physique d'avoir une vraie plus-value sur ce travail-là, et ça demande du temps finalement pour pas grand-chose. Donc c'est un vrai travail de staff, je pense, et c'est d'une importance fondamentale pour moi pour passer un cap en tant que staff. Et là, je parle de sport collectif depuis tout à l'heure, mais c'est la même chose dans les sports individuels, où pour le coup, il y a quand même un travail différent qui est fait. Il y a des outils, je crois que la montre, alors elle doit s'appeler, je ne sais plus le nom de la montre, je pense que vous voyez de quelle montre je parle, c'est pas une montre, c'est un bracelet, qui récolte les données sur ces éléments-là. Je crois que ça s'appelle la bracelet, ça doit être le Whoop. Ouais, le Whoop, qui donne des indicateurs sur le sommeil, etc. Peut-être que certains pourront faire un retour en disant que c'est peut-être pas assez précis, etc. Mais pareil, il y a différents outils qui sont aujourd'hui utilisables en sport collectif et en sport individuel pour optimiser la performance et gérer cette charge d'entraînement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas, bon, on a dépassé un peu le temps. N'hésitez pas à me faire un retour, c'est vraiment le but de ce podcast, vraiment sur ce thème-là en plus, qui je pense est très large. Et j'espère que ça vous aura quand même très intéressé. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, ciao!